Le service français de la Voix de l'Amérique depuis Washington propose... Votre santé, votre avenir. Votre santé et votre avenir commence maintenant. Il y a exactement un mois, le 20 septembre 2014, l'épidémie déclenchée par le virus mortel d'Ebola en Afrique de l'Ouest faisait plus de 2800 morts. Aujourd'hui, un mois après, ce chiffre a presque doublé et les nouvelles ne sont pas bonnes, car l'épidémie menace encore plusieurs millions d'individus. Les pays les plus touchés, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, ont été, du fait de leur faible système de santé, plus exposés à l'épidémie. L'épidémie a été compliquée aussi par la mort d'agents de santé et aussi par le manque de médicaments et surtout une mauvaise communication sur la maladie qui a plus développé la peur que l'information. De notre côté, la communauté internationale a tardé à réagir malgré les avertissements de l'OMS. Mais UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, n'a pas tardé à déclencher aussitôt sa machine de réponse humanitaire. Nous allons passer en revue cette action de UNFPA dans les pays affectés avec notre invité d'aujourd'hui.
Benoît Kalassa, directeur régional pour le Fonds des Nations Unies pour la Population en charge de l'Afrique de l'Ouest du Centre. Et je suis très heureux de participer à l'émission « Votre santé, votre avenir ».
Merci, M. Kalassa. Vous gardez l'antenne. Vous serez aussi interrogé par les reporters africains d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. D'abord, en Afrique de l'Ouest, nous aurons depuis le Sénégal, Mam Banik Diop. Banik. Bonjour, Banik. Vous êtes là?
Heureux de participer à cette émission.
Merci, Banik. Gardez la ligne. Et de Dakar, nous aurons aussi Ndeye Khady Diop.
Bonjour, mon confrère Khaly Gueye. Bonjour également à Monsieur Benoît Kalassa, représentant de l'UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est Ndeye Khady Diop de la radio Sud-FM.
Merci Ndeye Khady, gardez la ligne aussi. Et à Kananga, dans le Kasaï occidental, nous aurons Patrick Mukengeshai, notre correspondant sur place. Patrick, bonjour et bienvenue sur l'émission.
Merci beaucoup, Valil, et bienvenue également à tous les autres co-débatteurs.
Merci. À Kinshasa, nous aurons Béro Matanda, qui nous parle depuis la radio Top Congo FM. Béro, bienvenue sur Votre Santé, Votre Avenir.
Merci.
Benoît Kalassa, rebonjour. Quels sont les grands axes de la réponse de UNFPA en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale?
Bonjour, M. Gueye, et encore une fois, ça fait plaisir que je participe à cette émission. En tant que Fonds des Nations Unies pour la Population, cette épidémie, il faut prendre d'abord les trois pays de l'épicentre, c'est-à-dire la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, qui réunissent à eux trois une population de 20 millions d'habitants. En ce qui nous concerne, nous estimons déjà qu'il y a 800 000 femmes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone qui vont donner naissance dans les 12 mois. Donc, et ces femmes nécessitent une protection dans ce type d'événement. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un des moyens de protection le plus direct, c'est le personnel médical. Comme vous l'avez constaté, dans les victimes de l'épidémie, le personnel médical a été touché entre 40 et 50%. Donc déjà, procurer du matériel qui protège les femmes enceintes et le personnel qui les prenne en charge est notre première préoccupation et aussi la préoccupation de tous les partenaires humanitaires. Donc il faut conserver des systèmes de santé fonctionnels. Mais en ce qui concerne l'arrêt de la propagation de la maladie, le Fonds des Nations Unies pour la Population est acteur dans un domaine principal, c'est celui d'arrêter ou de suivre les contacts. C'est-à-dire, quand il y a un cas identifié et confirmé d'Ebola, nous nous occupons de retracer les personnes qui ont été en contact avec la personne et de suivre l'apparition ou non-apparition des symptômes. Ces symptômes sont généralement le vomissement, les maux de tête, la diarrhée, le saignement non attendu. Et dans les trois pays, donc que ce soit au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, nous avons été reconnus comme agence lead en ce qui concerne ce qu'on appelle en anglais le contact tracing. Donc je crois que ça doit être le suivi des contacts. Ça, c'est le deuxième acte et ça, c'est un acte principal pour l'arrêt de la propagation de la maladie. Il faut voir les défis liés à ce contact tracing parce que selon que on soit en ville ou dans les villages, en milieu rural, la stratégie ou l'approche change. Donc quand vous avez un cas de nombre limité, vous pouvez vous dire il y a 20 personnes qui ont été identifiées et vous suivez 20 personnes. Mais dans le milieu urbain, où on ne peut pas savoir quel type de moyen de transport la personne a employé, qui est entré dans la concession, qui a été mangé avec la personne, ça devient difficile. Et là, il y a ce qu'on appelle l'identification des cas. Et cela mobilise plus de personnes, engage plus la communauté et demande donc que les moyens soient doublés. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, évidemment, c'est pour des milliers de cas malheureux de décès, il y a des millions de personnes infectées. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté que non seulement les systèmes de santé sont surchargés, mais aussi les gens ont peur d'aller dans les systèmes de santé. En ce cas-là, ce qu'il nous faut, c'est assurer que les femmes, par exemple, qui doivent accoucher et qui ne peuvent pas aller ou accéder à des systèmes de santé de maternité normale, puissent en ce moment recevoir ce que nous appelons des kits de santé personnels. Ces kits de santé personnels permettent à la femme d'accoucher à la maison, mais avec un maximum d'hygiène pour elle et pour l'enfant. Donc nous sommes pour stopper la maladie, nous sommes dans la protection du personnel de santé, nous sommes aussi dans la protection, dans l'engagement avec la communauté pour assurer que les personnes gardent confiance dans les systèmes de santé, mais aussi qu'ils adoptent des comportements, n'est-ce pas, de protection. Comme vous le savez, les femmes sont les premières au front des malades. Elles prennent soin des malades. Et puis, elles sont parmi les pleureuses. Ce sont elles qui prennent soin des décédés. Donc, elles sont plus exposées. On a trouvé, par exemple, qu'en Guinée, 65% des décès surviennent dans les milieux des femmes. Donc, voilà un peu le domaine dans lequel nous sommes. Et nous pensons, avec tout le système des Nations Unies, comme l'avait recommandé la décision du Conseil de sécurité du 18 septembre, que nous allons travailler avec la mission de santé qui a été mise en place pour que tout le monde puisse être, n'est-ce pas, à la charge. Et comme l'a dit M. Gay dans l'introduction, pour que la réponse puisse être à la hauteur du problème aujourd'hui auquel nous faisons face. Il faut arrêter Ebola et cela est possible. Voilà, Khalil.
Merci, Benoît. Est-ce que UNFPA aussi, en tant que lead, partage sa grande réserve de ressources? Si on sait que UNFPA peut aussi fournir une analyse de données sur la population, analyse qui permettront de comprendre où sont localisées les communautés, est-ce que UNFPA partage ça avec les autres organisations contre Ebola sur place en Afrique de l'Ouest et du Centre?
La première chose que nous avons faite, Khalil, c'était dès que l'OMS a mis en place le centre technique au niveau de Conakry, suite à la décision des chefs d'État, donc des pays affectés. Nous avons mis à la disposition donc du système et des pays des statisticiens qui travaillent donc en appui pour, n'est-ce pas, comme vous le dites, le traitement des données. Donc nous sommes impliqués donc dans la collecte et l'acheminement des données. Par exemple, maintenant, avec l'ampleur, n'est-ce pas, de Ebola dans les centres urbains, comme c'est le cas au Libéria, là, on devra, n'est-ce pas, nécessairement utiliser nos relations privilégiées avec les instituts de statistiques pour faire des sondages, parce que là, il faudra passer, n'est-ce pas, de ménage en ménage. À ce moment-là, donc, on va utiliser les bases de sondages statistiques, et là, nous sommes, comme vous le dites, lead, n'est-ce pas, dans le partenariat statistique, et nous sommes dépositaires aussi de la connaissance démographique dans ce sens-là.
Voilà, M. Kalassa, merci, gardez la ligne. Nous allons donc ouvrir le micro à nos intervenants. D'abord, Béro Matanda de Kinshasa. Allez-y, Béro, avec votre question à M. Kalassa.
Oui, bonsoir, c'est Béro à Kinshasa. Est-ce que l'INFPA envisage un plan de préparation pour les pays non touchés par cette maladie, question de les protéger ou d'éviter la contamination vers ces pays? De deux, quand l'INFPA octroie des kits pour les femmes qui doivent accoucher à la maison, est-ce qu'il y a un suivi d'un personnel de santé au cas où l'accouchement s'est présenté à risque? Voilà tout, merci.
Merci Béro. Monsieur Kalassa?
Merci beaucoup Béro pour votre question. En ce qui concerne la première question, un engagement, pas seulement de l'INFPA, mais de tous les partenaires, notamment des Nations Unies, en ce qui concerne les pays non touchés, c'est ce que nous appelons les plans de contingence. C'est-à-dire qu'en dehors de 7 pays qui ont été touchés, parce que là on parle des pays de l'épicentre, mais il faut ajouter à cela la RDC, dans laquelle les cas d'Ebola ont été déclarés dans la province de l'Équateur, le Nigeria qui a reçu un cas, donc, et puis il y a eu des décès après la suite de ça, le Sénégal qui a eu un cas aussi, mais ces deux pays sont déclarés maintenant free de la maladie. Donc nous travaillons avec les ministères de la Santé dans les autres pays, par exemple en Côte d'Ivoire, au Mali et tous les autres pays. Maintenant, la recommandation c'est que tous les pays puissent se préparer au cas où il y aurait une épidémie. Pour vous donner juste un exemple, il y a une semaine et demie, avec mon collègue, le directeur régional du PNUD, nous étions au Ghana, où nous avons été reçus par le président de la République du Ghana, et une demande, c'était de dire, il faut nous aider à avoir un plan de contingence. Donc, la réponse est oui, nous travaillons sur ce plan de contingence, bien communiquer à la population les moyens de contagion, les moyens de protection, mais aussi aider le gouvernement à avoir les capacités techniques, la réponse médicale au cas où il y aurait un cas donc de contagion. Deux, en ce qui concerne donc les kits de dignité dont j'ai parlé, la distribution se fait d'abord au travers des canaux existants qui sont les travailleurs de santé communautaire. Donc ces travailleurs de santé communautaire vont faire le suivi, expliquer comment cela se fait et si le cas est possible, bâtir sur les ressources dont dispose la communauté, dont les matrones, là où ils existent. Pour nous, ce n'est pas le moyen idéal, mais ici, nous sommes en cas d'urgence, donc il faut bien expliquer, et on a un suivi qui dit, on a distribué tel nombre de kits, ce nombre de kits ont été utilisés donc, par ce nombre de femmes, et on peut connaître les naissances, et nous connaissons les naissances qui ont eu lieu par les femmes ayant eu ou ayant reçu ces kits de dignité. Est-ce que cela vous suffit, Véro?
Oui, c'est bon.
Cap sur Dakar, où se trouve d'ailleurs M. Kalassa, avec vous, Naira Diop.
Alors, j'appelle de Dakar, où l'OMS a déclaré la fin de l'épidémie quelques jours avant le Nigeria. Monsieur Kalassa, quelle a été la contribution du Fonds des Nations Unies pour la population dans ce combat qui se poursuit en Guinée, au Libéria, mais également en Sierra Leone?
Benoît Kalassa.
Oui, merci. En tout cas, nous sommes heureux de la déclaration du Sénégal et du Nigeria comme État sans Ebola. Vous savez, je pense que la leçon ici, c'est quoi? D'abord, féliciter ces deux gouvernements pour les efforts qui ont été mis en place. Si vous prenez le cas du Sénégal, c'est la capacité des systèmes de santé. Donc, dans les pays où il y a des systèmes de santé fonctionnels forts, la réponse a été plus appropriée et effective. N'oublions pas que le Libéria, la Sierra Leone, ce sont des pays qui se reconstruisent, qui sortent de 10 années de guerre, de destruction totale des infrastructures. Ils étaient à peine en train de reprendre. Donc, nous avons d'abord au Sénégal ou au Nigeria, nous travaillons avec les États. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec notre représentation au Nigeria. Dans la réponse même du Nigeria, nous avons commandé les kits de protection personnelle pour la préparation. Donc nous avons 1 000 000 de kits de protection personnelle. Même quand le gouvernement ou l'État est déclaré free of Ebola, mais il faut toujours avoir à disposition, n'est-ce pas, ce type d'équipement. Au Sénégal, nous avons été partenaires avec les autres partenaires ici du système des Nations Unies et les acteurs humanitaires pour travailler avec le ministère de la Santé dans la création du couloir humanitaire, hein, ce qui est très important. Donc voilà un peu des éléments de réponse à votre question.
Merci Benoît. Nous nous rendons à Kananga, dans le Kasaï oriental, retrouver notre correspondant Patrick Mukengeshai. Patrick, votre question à M. Kalassa, s'il vous plaît.
Et merci beaucoup à Lille. J'apprécie à sa juste valeur le travail abattu par l'UNFPA dans les 3 pays qui étaient en pleine épidémie. Mais je n'ai pas senti l'UNFPA parler, par exemple, de son implication dans la stabilisation de la situation épidémiologique dans notre pays, la RDC. Est-ce que c'est pour dire que l'UNFPA s'était désengagé dans cette lutte, ou alors est-ce que l'UNFPA a été, dans une certaine mesure, prête à partager son expérience avec les autres agences du système des Nations Unies pour la stabilisation de la situation épidémiologique à dire à l'Équateur?
Merci Patrick. Benoît Kalassa.
Merci. Vous n'avez pas vu la situation au niveau de la RDC pour la simple raison que le type de réponse qu'il y a eu dans l'Équateur n'est pas le type de réponse qu'il y a, par exemple, dans les pays de l'épicentre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, dans le cas d'une population fermée, comme c'est le cas dans l'Équateur, la réponse la plus immédiate, c'est une fois les cas sont identifiés, c'est de les isoler et de passer à ce qu'on appelle les centres de traitement Ebola. Donc là où il y a donc la déshydratation. Donc ça, c'est l'OMS qui fait ça. Nos inputs, vous ne les voyez pas, vous, parce que, par exemple, les gants. Hein, nous fournissons les gants, nous fournissons tous les systèmes de protection, mais que vous ne voyez pas. Nous travaillons dans la communauté, dans le sens de sensibilisation, vous ne les voyez pas. Je crois qu'à RDC, on a plus vu la réponse immédiate de façon santé, maîtrise, épidémiologique, où nous n'avons pas l'avantage comparatif. Comme je l'ai dit, dans le partage des tâches, nous sommes plus dans le suivi des contacts, dans la protection de personnel de santé qui travaille plus dans la santé de la reproduction et les maternités. Donc c'est là où nous sommes, c'est pourquoi je pense qu'à juste titre, vous pouvez ne pas avoir senti ça, mais si vous vous rapprochez de notre bureau à Kinshasa ou de notre antenne à Kananga, vous pourrez toujours avoir des informations sur la participation active de UNFPA pour la RDC, d'ailleurs, que je souhaite, comme c'est aussi mon pays. D'ici là aussi, nous pourrons avoir, n'est-ce pas, le Congo vaincre, comme il a vaincu par le passé, les épidémies Ebola. Et pour dire, ici, il faudra saluer, n'est-ce pas, la participation du gouvernement congolais dans la réponse en Afrique de l'Ouest, parce que on a vu des équipes, des épidémiologistes venir dans les 3 pays, que ce soit en Guinée, au Libéria ou en Sierra Leone, apporter l'expertise, le transfert technique dans le sens de la surveillance.
Effectivement, nous avons eu le déplacement des experts congolais, comme le professeur Mouyembe, qui était parti en Guinée d'ailleurs, pour transférer la technologie de lutte contre Ebola dans ce pays. Retour au Sénégal pour retrouver Mbanik Diop, que nous joignons aujourd'hui à Kédougou. Mbanik, allez-y avec votre question à M. Benoît Kalassa.
Donc, merci à M. Kalassa. Donc, ma question, c'est de savoir que l'UNFPA, on le connaît surtout dans le développement humain, la lutte contre la mortalité maternelle, l'optimisation de la jeunesse, etc. Aujourd'hui, l'épidémie de Ebola vient justement donc s'y greffer par rapport justement à la prise en charge et au combat que l'UNFPA. Et on s'est rendu compte effectivement que l'épidémie a précipité l'effondrement des systèmes de santé en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, Donc, le problème qui se pose, c'est qu'il y a un déficit au niveau du personnel médical. Alors, que fait l'UNFPA pour aider ces pays dans le cadre de la reconstruction de ce personnel médical qui pourrait effectivement appuyer ou bien prendre en charge ces malades-là?
Merci, Manik. Benoît Kalassa.
Merci, monsieur Diop. Là, vous touchez au cœur de la question. Comme je l'ai dit, je ne sais pas, je crois que c'était à Madame Day ou à Véro, si aujourd'hui le Libéria surtout et la Sierra Leone se trouvent fragilisés, c'est parce qu'ils n'avaient pas de système de santé solide. Nous, nous sommes en train, tout en apportant la réponse pour arrêter aujourd'hui Ebola en termes de contagion et d'évolution. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de parler avec les autres partenaires qui sont dans les systèmes de santé pour dire construisons en parallèle, n'est-ce pas, des systèmes de santé résilients, c'est-à-dire pour éviter la vulnérabilité. En ce moment, nous avons sur la table un projet de 58 millions de dollars que nous avons nommé le projet de sage-femme dans le Mano River. Donc nous pensons que tout en continuant à lutter contre Ebola, nous devons d'abord créer une capacité de réponse rapide en amenant un complément de personnel médical en sage-femme. Nous pensons amener dans les 6 mois 250 sage-femmes dans ce pays. Nous pensons amener 30 à 50 gynécologues obstétriciens. Nous pensons restaurer les infrastructures. L'appel que nous recevons du président du Libéria, du président Koroma de la Sierra Leone, c'est la même. Disons, il faut continuer à maintenir et renforcer les systèmes de santé. C'est vrai que dans l'immédiat, aujourd'hui, demain, dans 30 jours, 60 jours, c'est difficile de combiner les deux. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut que nous puissions amener tous les partenaires à ne pas oublier et à tirer les leçons de l'épidémie du VIH-Sida. Ceux qui sont un peu âgés ou qui ont suivi l'historique de l'épidémie du VIH-Sida, c'était la même panique qui s'était créée et tous les moyens allaient vers la réponse VIH-Sida. Tout le personnel se concentrait vers le VIH-Sida et on a négligé le système de santé. Donc, on veut éviter cela. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, nous avons sur la table le projet de Mano River. Nous allons le pousser et nous continuons en dehors et parallèlement à notre réponse aujourd'hui à s'assurer que les services de santé fonctionnent. Juste un exemple, pour la Guinée-Conakry, nous venons de recruter 40 sages-femmes qui venaient de prendre la retraite pour le remettre dans le circuit du travail et continuer, n'est-ce pas, à travailler dans les maternités pour que les services ne soient pas abandonnés. Voilà un partage de notre réponse et de notre construction des systèmes de santé dans les pays, M. Diop.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Vous suivez votre santé, votre avenir. Aujourd'hui, réaction du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, à la crise Ebola en Afrique. Au micro, Khalil Gay, notre invité, M. Benoît Kalassa, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Benoît Kalassa, j'ai à côté de moi le docteur Miatou Dila, qui est un expert en santé publique et qui vous a écouté tout à l'heure. Docteur, quelle est votre impression?
Je crois que M. Kalassa, il a le discours, notre discours. C'est le discours du groupe de médecins de santé publique qui insiste sur la nécessité d'avoir des systèmes de santé résilients, des systèmes de santé qui sont capables de réagir à n'importe quelle attaque. Que l'attaque vienne d'Ebola, que l'attaque vienne du sida, que l'attaque vienne de n'importe quelle autre maladie. Nous avons besoin d'un système résilient, un système pérenne.
Merci docteur. Je rappelle à nos auditeurs que le docteur Miatou Dila sera notre invité la semaine prochaine, mais cette fois-ci, ça sera une émission radio-télévisuelle sur Ebola et la réaction en général dans le monde et surtout ce qui a été fait en RDC. La RDC a su à chaque fois réagir comme il faut.
Au moins 8 fois.
Au moins 8 fois.
au moins 8 fois la RDC, malgré toutes ses difficultés, ses défaillances, 8 fois la RDC est parvenue à contenir Ebola en moins de 3 mois. Parce que on a mis en place en RDC un système résilient. Malgré toutes ces difficultés, la décentralisation a fonctionné au niveau du système de santé, ce qui fait qu'une maladie peut attaquer le pays n'importe où, même, comme on vient de le voir, dans des zones très très reculées de l'Équateur, mais le système est capable de ne fût-ce que savoir qu'il y a un problème là-bas et commencer déjà la réaction. Et quand l'assistance extérieure vient, quand je parle de l'assistance extérieure, je veux dire même de Kinshasa, c'est déjà extérieur, et a fortiori de Bruxelles, de Washington ou de Londres, quand cette assistance extérieure à l'endroit attaqué arrive, c'est pour soutenir les efforts qui sont déjà sur place.
Merci docteur. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais donc dire au revoir à nos amis. Au revoir à Manik. Manik, merci de votre participation. Au revoir et bonne soirée à Kédougou.
Merci Khalil.
Merci. Au revoir à Nekhadi. Nekhadi Diop depuis Dakar, Sud FM. Nekhadi, au revoir.
Merci à vous, M. Khalil Gueye, et merci à Benoît Kalaza. Merci à tous de la Voix de l'Amérique.
Et je dis aussi au revoir à Patrick Mukengashai depuis Kananga. Patrick, au revoir.
Au revoir Khalil. Au revoir également à notre cher invité.
Ok. Au revoir Béro, Kinshasa.
Au revoir aussi à notre invité, au revoir au docteur, à la prochaine.
Merci, à la prochaine. Benoît Kalaza, nous sommes à la fin de l'émission, quel est votre dernier mot en tant que responsable de UNFPA face à cette situation d'Ebola en Afrique de l'Ouest et du Centre?
Merci Khalil, et puis merci aux personnes qui ont posé des questions. Je pense que mon dernier mot, c'est d'avoir une pensée aux familles qui ont été touchées, aux populations des trois pays affectés ici, il y a des millions de personnes affectées pour la nécessité de construire des systèmes de santé résilients, comme le dit le docteur Niatoudila. Je pense que pour moi, c'est associer ma voix aux appels en cours, les appels du secrétaire général, les appels de partenaires de santé, les appels du président de la République des États-Unis, donc de tout le monde pour que nous puissions joindre nos efforts et puis appeler les leaders politiques africains eux-mêmes. Et ici, je pense à la Commission économique de l'Afrique de l'Ouest pour que, à la réponse globale et internationale, il puisse y avoir une réponse locale qui vienne de nos pays et de communautés. Merci encore, M. Gueye, et au plaisir.
Merci, M. Benoît Kalaza. Merci pour votre temps. Merci aussi d'avoir bien voulu partager votre expertise et votre action immédiate face à cette maladie. Au revoir et à très bientôt. Nous vous reprendrons encore, M. Kalaza. Au revoir. Bonne soirée à Dakar.
Au revoir. Merci.
Au revoir, Dr. Mietoudila.
Au revoir et à la prochaine.
À la semaine prochaine. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. À la technique, il y avait Skip Six. Please believe me. Réalisation Fatouma Kalala. Believe me when I tell you. Présentation Khalil Gueye. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine avec le docteur Mietoudila qui sera avec nous à la télé et à la radio. Oh, darling, if you leave me. Never make it.